sujet de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
Alors là, écoutez-moi bien, là, je vais faire deux entrevues, une derrière l'autre. Puis on va parler du retour à l'école. C'est dans à peu près deux semaines et quelques jours. Encore, on ne sait rien et on a annoncé au niveau du gouvernement que M. Roberge, notre ministre de l'Éducation, fera conférence de presse et présentera son plan remodelé pour la rentrée scolaire. Je vous rappelle qu'on est juste à deux semaines. Je ne sais pas combien de temps ça vous prend d'habitude pour préparer la rentrée scolaire de vos enfants dans la vie quand il n'y avait pas de COVID, puis quand il n'y avait pas le ministre Roberge, puis quand tout était réglé, mais ça prend certainement plus que deux semaines à mon sens. Et dans le contexte actuel, je pense que ça va être encore plus compliqué. Il y a donc un paquet de questions qui se posent chez les enseignants, mais aussi chez les parents, voire même chez des étudiants. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va fonctionner? Il y a deux façon de voir les choses, et je vais vous demander de bien écouter les deux entrevues que je fais dans la suite, dans les prochaines secondes. Puis, au prochain bloc, après la prochaine pause, je vais vous demander d'intervenir par le biais du téléphone pour nous dire comment vous réagissez aux propositions qui sont faites et quelle est votre inquiétude en rapport avec la rentrée. Puis c'est important parce que, écoutez bien les deux entrevues, vous allez voir. Alors, prenez tout de suite les numéros de téléphone. Alors, dans la grande région de Montréal, 514-790-9850. Et à l'extérieur du Grand Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. Vous comprenez qu'on parle de la rentrée scolaire. Vous êtes un papa, vous êtes une maman, vous vivez une situation particulière en rapport avec votre propre santé, vous vivez une situation particulière en rapport avec le cheminement particulier de votre enfant, vous êtes une famille dite tout à fait correcte, sans problème majeur et quoi que ce soit, vous avez hâte à la rentrée, mais comment se fera-t-elle? Si votre enfant était touché dans la pandémie, est-ce que vous allez être obligé, vous, de vous mettre au rencard, donc de pas aller au travail, puis de rester avec votre enfant? S'il peut pas aller à la garderie parce qu'en attendant qu'il n'est pas à l'école parce qu'il est touché, eh bien, vous êtes obligé de demeurer avec. Est-ce que c'est grand-papa, grand-maman qui pourront garder? Ben non, c'est peut-être risqué et dangereux parce que l'enfant aurait été touché par la... Comprenez-vous, là? Puis mettez-en des scénarios. Mettez-en. On va parler à une maman qui, elle, dit « J'aimerais que le ministère de l'Éducation, le ministre, pense à une forme hybride. » Qu'est-ce que ça veut dire, un hybride? Ça veut dire une forme régulière avec la possibilité de peut-être de faire du télé-enseignement si jamais mon enfant était retiré de l'école pour quelque cause que ce soit. Madame Noémie Lafrance est avec nous. Elle est la mère d'un enfant. Bonjour, Madame Lafrance.
Bonjour.
Comment ça va à deux semaines de la rentrée scolaire?
Ben écoutez, on n'a reçu aucune information de l'école ou du gouvernement à savoir quels étaient les préparatifs. Selon moi, ça prendrait plus qu'un mois pour préparer le genre de travail qui est à faire, à savoir est-ce qu'il y a des systèmes de dépistage qui ont été mis en place, à savoir quelles vont être la grosseur des classes, comment ils vont réorganiser même l'architecture, le système de HVAC. De système de ventilation. Il y a énormément de choses. Et à savoir quelles sont toutes les politiques aussi en lien avec comment les gens vont s'isoler, quelles vont être les décisions qui vont être prises quand un enfant est testé et mm-hmm. qu'il est positif. Est-ce qu'ils vont avoir les tests en temps? Est-ce qu'il va y avoir une personne sur place dans l'école qui est en charge de ça, etc., etc. Donc, tout ça, on n'a aucune information là-dessus. Et oui, on a une personne qui est à risque à la maison, mais même si on n'en avait pas une, on n'est pas, on se sent pas du tout comme si la situation est prise en main puis qu'il y a un sens.
Je comprends. Organisé. Donc, devant ce flou administratif, ce flou décisionnel, ce tango cha-cha de danse qu'on le fait, on le fait pas, puis etc. On verra, puis on va l'annoncer la semaine prochaine. Vous avez dit, il faudrait peut-être donner l'opportunité aux familles, aux parents particulièrement, d'un système hybride. Qu'entendez-vous par système hybride?
Ben, c'est-à-dire que je pense que c'est important dans une situation comme celle-ci de vraiment comprendre que tous les besoins de chacun sont pas les mêmes. Et de faire une décision comme ça à travers le Québec, ça s'applique pas d'une façon productive. C'est-à-dire qu'il y a des régions dans le Québec où il y a eu aucun cas pendant 14 jours de temps. Ça, dans un sens, c'est correct, tu peux poursuivre l'école d'une façon assez normale. Mais dans une situation comme par exemple à Montréal, où c'est vraiment la ville la plus affectée au Canada, on a besoin d'un système où il y a des considérations qui sont faites pour les gens qui ont des besoins différents.
Oui.
Parce que, évidemment, la situation n'est pas sous contrôle et il pourrait y avoir une deuxième vague et selon beaucoup d'épidémiologistes, les deuxièmes vagues peuvent être encore plus énormes que la première.
Donc,
en plus, on va se retrouver en automne, tout le monde va être enfermé, tout va être réouvert. Donc, il y a quand même beaucoup de chance.
Donc, vous demandez qu'on mette déjà en place une certaine souplesse pour faire face à toute éventualité.
Exactement, et aussi pour faire, parce que vous voulez savoir qu'est-ce que ça donne comme idée, c'est très simple, il s'agit soit d'avoir une caméra à l'intérieur des classes pour que les enfants qui désirent rester à la maison puissent suivre les classes, il peut y avoir un certain montant de la charge débordante de ça qui est pris en charge un peu par les parents aussi, c'est-à-dire que bon, on s'adapte. À ce processus-là. Mais il faut tenir en compte, il y a des gens qui pensent que c'est trop pour les professeurs, mais écoutez, c'est trop pour tout le monde, là, le COVID. Il faut s'adapter. Et puis cette année, ça va être une année COVID, ça va être une année où il va falloir gérer. Il va peut-être y avoir des écoles qui vont fermer entièrement, etc., etc. Donc, il vaut mieux d'une façon être préparé, mais aussi de donner l'option, parce qu'à tout moment, peut-être qu'une famille va décider, ben écoutez, nous, ça marche plus pour nous. On a eu des cas dans notre famille, on a des cas dans l'école, on veut plus continuer à envoyer notre enfant à l'école. Donc, si c'est en place, ben déjà, ça va fonctionner beaucoup mieux.
Mais c'est pas à la demande que vous voulez ça, là. Vous dites, il faudrait faire la preuve qu'il y a une situation particulière parce que demain matin, on peut pas vider. Mettons que les gens décident de dire, ah ben oui, et puis qu'on se ramasse avec un nombre effarant de jeunes qui ne sont plus en classe. Il faudrait qu'il y ait une condition préexistante, préalable, qui justifie que l'enfant reste à la maison pour faire de la téléclasse.
Oui, pas nécessairement. Je veux dire, c'est pas vraiment un problème qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants en classe. Les professeurs sont déjà engagés. S'ils ont 5 élèves, ils ont 5 élèves. S'ils en ont 15, ils en ont 15. Le moins qu'ils en ont, le mieux, parce que le plus facile, ça sera pour eux d'organiser l'hygiène, d'organiser les classes, d'organiser tout ça. Faut être réaliste par rapport à ça. Je veux dire, ça change rien, en fait, le fait qu'il y ait moins d'élèves et tout ça. Et de vouloir contrôler tout ça d'en haut, c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que chaque école, chaque communauté sait mieux ce qu'ils ont besoin et ce qui est à faire, je pense, que de faire de forcer, si tu veux, tous les gens à aller à l'encontre, si tu veux, de la protection de leur santé, etc.
Deux questions. Je n'ai plus d'enfants du domaine scolaire. c'est passé. Qui va encadrer l'enfant qui va être à la maison si les papas puis la maman travaillent? Qui on met là pour encadrer l'enfant? La gardienne? La grand-mère?
Ben, écoutez, ça dépend. Je pense que chacun va trouver ses solutions. Par contre, c'est sûr que entre ça et être forcé à faire l'école à la maison, c'est quand même une grosse différence. C'est-à-dire que quand ton enfant suit la classe et tout ça, il y a quand même un certain niveau d'autonomie. Évidemment, ça dépend de l'âge de l'enfant. Il y a toutes sortes de choses à faire, mais comme j'ai dit tantôt, tu sais, on a tellement de choses à s'occuper maintenant avec le COVID, ça fait partie des conséquences. Et vaut mieux avoir une solution qui est plus flexible déjà au départ et qui permet à tout le monde de pouvoir participer que de forcer des choses qui ne fonctionneront pas.
Et on dit souvent que dans l'apprentissage, et les jeunes sont là, as-tu hâte de retourner à l'école? Oui, pourquoi? Ils nous disent tout ça. Moi, mes enfants et mes petits-enfants m'ont toujours dit ça. Ah, parce que je peux revoir mes amis.
Ben oui, c'est sûr. Mais on peut voir des amis, hein. Je veux dire, on peut aller prendre une marche, aller au parc. Il y a plein de possibilités. On le fait. On est à l'aise avec ça. On n'est pas à l'aise avec la situation à l'échelle à laquelle elle a été organisée pour le Québec. Et on n'est pas à l'aise non plus au nombre de gens dans l'école. Et surtout, comme je disais, on n'a eu aucune information que la situation a été prise en main. Il y a beaucoup d'exemples, là. Tu sais, même l'université aux États-Unis, eux autres, ils ont déjà des hôtels en place pour faire les quarantaines des étudiants. Ils ont, quand même des exemples là, de situations qui ont été mises en place extrêmement complexes et extrêmement.
Avez-vous fait une démarche officielle auprès du ministère, auprès de l'école ou de la classe? Oui.
Oui, oui, on a envoyé une lettre à M. Roberge et à notre école.
Est-ce que ça se pourrait que vous n'ayez pas eu de réponse encore? Oui.
On n'a pas eu de réponse, non. De aucun organisme. Et d'ailleurs, je dois dire que tous les sites disent on est parti en vacances depuis le 16 juin. Il n'y a aucun ajout à aucun site.
Non, y a rien
et même dans les nouvelles, ça vient juste de commencer cette semaine. C'est-à-dire que, je sais pas, tout le monde est en vacances.
J'espère que non. Merci, madame. Vous ne l'êtes pas parce que vous êtes une maman qui préparait la rentrée scolaire et c'est sûr que je sens chez vous une certaine préoccupation, mais au moins des pistes de solutions. Vous n'êtes pas assis à regarder passer la parade, vous dire « Hey, on pourrait-tu faire quelque chose? » Merci beaucoup, Noémie Lafrance.
Ça me fait plaisir.
Merci. Je parle à une autre Noémie, parce que s'il y a la possibilité d'un système dit hybride, comme le dit Mme Lafrance, c'est-à-dire de faire de la télé-école pour certains cas, il y a une autre réalité qui, elle, existe depuis un bon moment, c'est l'école à la maison. Des parents qui décident de dire « moi, je prends en charge la formation et l'éducation, ce sera vérifié par le système académique, bien sûr, mais je le fais chez nous ». Et je veux parler de cette réalité-là aussi, parce que ça peut être une opportunité pour bien des parents qui n'avaient pas envisagé cette solution, de dire « Hey, je pourrais m'inscrire à cela, mais ne s'inscrit pas qu'il veut, à mon point de vue. Il doit avoir des protocoles et une façon de faire et un encadrement pour assurer la réussite scolaire. » Noémie Berlus est avec nous. Elle est directrice de l'Association québécoise pour une éducation à domicile. Bonjour, madame.
Bonjour.
Comment ça fonctionne, ça, l'éducation à la maison?
Bien, premièrement, j'aimerais dire que n'importe qui peut faire l'école à la maison de ses propres enfants. Il suffit d'envoyer l'avis à la commission scolaire et au ministère de l'Éducation pour les informer du choix. Parce que l'école à la maison, partout au Canada, c'est un droit. On a le droit de choisir le type d'éducation de donner à nos enfants. Et l'école à la maison, c'est un choix comme faire l'école, envoyer son enfant à l'école alternative, privée, public, etc.
Ceci étant dit, tout le monde n'a pas la capacité, la compétence, la patience, la connaissance pour encadrer l'école à la maison. Il faut quasiment être un demi-prof.
Ben, je vais vous dire, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a la volonté. Moi, je dis tout le temps qu'il faut que le parent veuille faire l'école à la maison et qu'il soit débrouillard. Mais c'est pas nécessaire que le parent ait toutes les compétences parce qu'il y a tellement de ressources disponibles sur Internet, les membres de la famille, les membres de la communauté. C'est pas vrai que c'est le parent qui reste dans le sous-sol avec son enfant et qui lui enseigne de A à Z. On va chercher des mentors, on va chercher des ressources qu'il nous faut pour enrichir l'éducation de notre enfant.
Imaginons que, en tout cas, moi je sais que j'ai déjà fait les devoirs le soir là, pour mes enfants. Ça n'a pas toujours été drôle, là. Il accepte que tu sois papa, mais il accepte pas que tu sois Madame Marie-Ève, tu sais.
c'est typique. On voit ça souvent avec les gens qui commencent à faire l'école à la maison. Je pense que le mot « école » dans la phrase « école à la maison » est un mauvais choix de mot. Et les familles qui font l'école à la maison, entre nous, on appelle ça l'apprentissage en famille, l'éducation à domicile. On parle pas d'école à la maison et c'est ça le problème, c'est d'essayer de reproduire l'école dans sa maison. Ça fonctionne pas très souvent.
Moi, je respecte ça tout à fait, là, ces choix-là, puis ça fait partie de nos droits. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais entre vous et moi, là, je peux pas décider ça, moi, parce que je le décide que j'aimerais ça. Il faut que j'aie l'enfant capable de ne pas être encadré par un prof, un milieu scolaire, ou etc., etc. Il faut que j'aie des périodes, il faut que... Autrement dit, un bon élève va réussir sans aller à l'école, mais celui qui est en cheminement particulier ou qui éprouve certaines difficultés, on est peut-être dans le trouble.
Il y a plein d'enfants qui n'ont pas leur diplôme, mais qui sont allés à l'école. C'est la même chose à l'école. Un élève qui est bon à l'école va être bon. Un élève qui a des difficultés, il y en a plein qui finissent jamais. L'école, c'est pas la panacée pour ça. Et il y a plein de parents qui sortent leurs enfants d'école parce qu'ils sont en difficulté puis qu'ils sont capables de mieux cibler leurs besoins puis de répondre à leurs besoins. On le sait, les écoles ont pas toujours les ressources qu'il faut.
Ça, on sait ça. Il manque d'orthopédagogues, il manque de toutes sortes de gogues possibles.
Moi, je voulais un enrichissement pour mon fils. Alors, j'étais prête à payer pour qu'un enseignant le sorte de ses cours de mathématiques pour lui faire autre chose parce que mon fils, il était 3 ans en avance en maths. Mais l'école a dit que c'était trop compliqué avoir un autre quelqu'un d'autre, fait qu'il va s'asseoir là puis il va apprendre des choses qu'il sait déjà.
Oui, mais ça existe chez des enfants qui ont un cheminement, qui sont un peu dans la douance. C'est dangereux, la douance, dans le milieu scolaire actuel, parce que ils dépassent...
C'est la même chose avec les deux bords. On enseigne au milieu de la classe ou on enseigne au 25e percentile, mais si on est aux deux bouts de la courbe, les besoins sont pas toujours pris en main parfaitement. Alors, il y a des parents qui font mieux.
Combien il y a de gens qui font l'école à domicile, excusez-moi, l'éducation en milieu familial?
Au 1er juillet.
Je suis un bon élève, hein? Je suis un bon élève.
Oui, vous avez bien compris. on était à 5 800 officiellement, mais ça, c'est au 1er juillet, là. Il y a plein de parents qui décident en août, septembre. Moi, je m'attends que ce soit un record cette année de familles qui sont inscrites au gouvernement comme quoi ils font l'école à la maison.
Et vous me parlez de ça, 5 800 familles au Québec?
Oui, je crois que c'est un peu plus que le nombre d'enfants qui sont dans les écoles alternatives.
Et vous avez une augmentation des demandes et des gens qui se disent ben, comment ça fonctionne. Donc, on peut vous rejoindre quelque part si on veut faire ça.
On a un site Internet, c'est le www.aqed.qc.ca.
Donc, c'est compliqué. Attendez, là, il faut connaître son alphabet déjà.
A-Q-E-D.QC.ca.
Ça, je sais qu'est-ce que ça veut dire. .ca, ça, c'est mon comptable agréé, la période des impôts. OK, j'ai des moyens mémotechniques de retenir, vous savez.
C'est l'Association québécoise pour l'éducation à domicile, AQED.QC.ca.
Merci beaucoup, Mme Berlus, directrice de l'Association québécoise pour une éducation à domicile. Au retour de la pause, je veux vous entendre là-dessus. Seriez-vous capable de faire l'éducation à l'école, à la maison, ou l'éducation en milieu familial? C'est ça qu'il faut dire maintenant, les euphémismes, ça existe. Et également, qu'est-ce que vous pensez de cette rentrée scolaire avec une position hybride de repli, si on peut dire, ou alternative, de dire, ben, on ferait de la télé-école s'il y a des cas particuliers qui se présentent, dû évidemment à la maladie ou au danger de contamination dans le milieu familial. Je répète les numéros de téléphone au cas où, pour voir si vous êtes de bons étudiants, 514-790-9850 pour la grande région de Montréal et l'extérieur de Montréal, le 1-866-790-9850.
Au réseau Cogeco. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
Vous êtes enseignant, vous êtes professeur, vous êtes étudiant, vous êtes parent. J'attends vos appels et on va d'un premier appel avec Olivier. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour, M. Mongrain.
Bonjour, comment allez-vous?
Bien, très bien, merci, vous-même.
Très bien. Prêt pour la rentrée scolaire?
Oui, personnellement, moi, je suis un peu fébrile parce que je suis un futur étudiant du cégep.
Oui.
Et nous, ça va être par hybride, justement. On va avoir notre horaire un peu plus tard, je pense, le 24 août, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Mais quand même, je me demande des questions sur le processus. Quel cours va être à distance? Là, ce lundi, je pense que je vais avoir des informations, mais je à voir. Mais quand même, vu que moi, je suis sur la Rive-Sud de Montréal et que mon cégep est à Montréal, par exemple, je ne sais pas quel cours il faut... Ça, comment je vais dire ça? Va être en présentiel, s'il va falloir que je me déplace souvent ou pas. Donc oui, hybride, je trouve c'est une bonne idée, mais quand même, il faut avoir beaucoup de détails.
Dites-moi, parce que c'est convenu, il y aura des cours à distance.
D'après ce que je comprends, oui. Il va y avoir des cours en présentiel et à distance, mais pour le moment, je ne sais pas lesquels vont être à distance, sauf mon cours d'éducation physique, mais disons que le cours d'éducation physique, ce n'est pas un de mes favoris. Donc,
monsieur, si je vous comptais mon cheminement en éducation physique au cégep, non, il faut pas, prenez pas exemple sur moi, c'est pas une bonne affaire. Je suis rentré à l'université, j'avais pas de diplôme d'études collégiales parce que je manquais des heures d'éducation physique. Je les ai reprises durant la première semaine de mon université. Ça a été extrêmement formateur. Ça a fait de moi un athlète. Merci beaucoup, Olivier. Bonne chance. Sophie. Oui, bonjour, Sophie.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, je vous écoute.
C'est bon. J'ai un peu les deux côtés de la médaille. Moi, j'ai une belle-sœur, un beau-frère qui ont fait l'école à la maison pour leurs 5 enfants. Il y a eu une problématique avec une de leurs filles au tout début de la scolarisation. Puis là, avec l'école et avec la commission scolaire, ça se réglait pas. Donc, ils ont retiré les 5 enfants, puis ils ont commencé à faire l'école à la maison. Ça s'est super bien passé. Puis le retour à l'école s'est fait progressivement. À chaque fois qu'un entrait au secondaire, ben okay. Là, ils ont progressé comme ça. Puis ils arrivaient à faire le programme scolaire élargi, je dirais, pour toute la gang. Puis ils finissaient là, tu sais, au temps des fêtes, ils prenaient un mois et demi au lieu de 2 semaines d'arrêt. Ils arrivaient à faire le programme, mais ça a bien développé. Ils faisaient des activités extérieures.
Donc, ça a bien été l'enseignement à domicile.
Oui, c'est ça. Mais j'ai un autre cas dans des amis. Eux, c'est ça, le suivi, c'est pas bien fait. Fait que la jeune s'est retrouvée à la fin, avait pas de diplôme de secondaire 5. Il manquait, il avait été comme un an et demi à plus rien faire. Fait qu'elle était comme vraiment en dehors du programme.
Moi, je vais vous dire que des parents qui font ça là, à la maison là, pour 5 enfants, là, ceux qui ont étiquette, eux autres, pour être dans les premiers sièges, dans les premiers bancs au paradis. Ça doit être excessivement exigeant.
C'est une organisation. Je dis pas que c'est facile, là.
Non.
Mais il était très, très bien organisé. Au sous-sol, il avait fait une salle de classe. Fait qu'il y avait chacun des bureaux des enfants.
Oh oh.
Puis, les plus jeunes faisaient de la lecture, mais ça devenait la dictée des plus vieux. Tu sais, il y avait plein de choses interreliées par niveau. Puis après ça, il prenait ma belle-mère, allait pour faire de l'art plastique avec les enfants. Parce qu'elle avait plus d'habilité.
Je comprends. Mais ça, on voit que ça prend un profil de parent un peu spécial. Moi, personnellement, honnêtement, là, je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de faire ça. Je ne suis pas sûr. Mais non, c'est ça dépend des tempéraments. Merci beaucoup, madame, de votre témoignage, de voir les deux côtés de la médaille. Lucielle est avec nous. Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Je vous
Alors,
écoute.
Moi, c'est l'autre côté, puisque je suis directrice d'école.
Ah, ça me fait plaisir, madame.
Oui,
êtes-vous prête?
En fin de carrière, je dois vous dire.
Êtes-vous prête pour la rentrée?
Honnêtement, on a travaillé tout l'été et on n'est pas prêt. Okay? On a embarqué du jour au lendemain en mars sur le Zoom avec des enseignants. Vous disiez tout à l'heure que les parents, c'était des saints, mais les enseignants aussi. Ils ont embarqué du jour au lendemain sur des Zooms, de la technologie qu'ils ne connaissaient même pas. Et oui, ça s'est très bien passé finalement. N'empêche que les élèves n'ont pas terminé, n'ont pas eu une année scolaire qu'il fallait. Là, on recommence, on a des directives, on doit faire rentrer nos élèves, tous les élèves jusqu'à secondaire 3 à l'école. Les autres, on n'a pas encore de directives. Dans les classes, on met des bulles, on garde nos élèves, on a des classes de 25 élèves, combien de bulles on peut mettre? Qu'est-ce qu'on fait avec les masques? Qu'est-ce qu'on fait avec les enseignants? Qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, on fait des choses. On ne sait pas si la semaine prochaine, on ne va pas devoir les changer de nouveau. Je suis très inquiète pour les élèves du secondaire, surtout, et pour les élèves en difficulté. Les élèves du secondaire 4 et 5 qui quittent, qui vont dans les cégeps avec une formation d'une demi-année, même pas, l'année dernière. Cette année, j'ai l'impression que ça va être un petit peu la même chose. Et je m'inquiète pour tous mes élèves en difficulté.
Mais vous avez raison. L'inquiétude est véritable. Elle l'est pour les parents. Et quand je sens qu'elle l'est aussi pour des directions d'école, est-ce que ce serait mieux d'attendre après la fin du travail, de se laisser encore une semaine et demie, 2 semaines?
Oui, ça serait une possibilité. On est en train de voir toutes les éventualités. On est en train de voir tout ça. Nous sommes une école privée, donc il y a des fêtes qu'il faut respecter. Donc, on est obligé de commencer. Nous, normalement, on commence le 25 août. Ça veut dire dans pas longtemps.
Ben non.
Et bon, on est prêt comme on peut être prêt, quoi. Avec aucune directive, avec un silence pendant tout l'été. Et je sais pas comment ils peuvent aller en vacances. Quand nous, on n'a pas été en vacances, c'est que les profs sont en train de se demander ce qui va se passer. Quand les gens partent en vacances, en nous laissant comme ça un petit peu suspendus.
Oui.
Et beaucoup d'inquiétudes. Les profs n'arrêtent pas d'appeler, les parents n'arrêtent pas de nous appeler. Ils veulent, bon, il y en a qui vont garder les enfants à la maison, ils demandent l'enseignement hybride. Mais il y en a qui disent, moi, je veux pas qu'on me filme pendant que j'enseigne, sinon j'enseigne pas. Alors,
Ah bon? Oui, c'est vrai aussi. Ben oui, vous avez raison.
Légalement, il faut qu'il y ait une légalité là.
Vous avez raison. Imaginons qu'il se passe une bourde et puis qu'on ait filmé ça. Et puis qu'après ça, on s'amuse dans les réseaux sociaux à passer Madame Chose qui a de l'air folle. Là. C'est pas bon, ça, là.
Exactement. Alors, il y a du légal là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Alors, si un prof te dit « moi, je veux pas, je m'en vais », qu'est-ce qu'on fait au mois de septembre pour trouver des enseignants avec la pénurie d'enseignants que nous avons? Bon, alors voilà.
Du ciel, vous êtes où? Est-ce que ça vous a pas tenté de prendre votre retraite tout de suite?
Écoutez, je l'ai prise il y a 5 ans et on m'a rappelé, j'avais encore un peu d'énergie. Je suis retournée dans une école pendant 5 ans. Mais là, c'est vraiment ma dernière année, mais je crois que je pensais écrire un livre. Je vais écrire un livre parce qu'avec cette histoire de la COVID, ça va venir boucler ma boucle.
Ben, je pense que vous pouvez mettre un chapitre sur la vocation. Parce que je pense que vous l'avez pour revenir dans ce milieu avec des circonstances que l'on connaît.
48 ans en éducation.
Ben, mes félicitations et je lève mon chapeau, madame.
Merci beaucoup, merci monsieur Mongrain. Félicitations pour votre émission.
C'est gentil. Merci beaucoup, madame. Écoutez, c'est ça. Aucune directive. Tout le monde est en vacances. On commence dans 2 semaines et demie. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir donner un bulletin à un moment donné à notre ministre de l'Éducation.